remercie de votre fidélité à ce dernier numéro de l'année de la Tribune de Presse du vendredi 23 décembre 2016. Et je commence d'abord par saluer les débatteurs de ce soir. Claude Molicho, bonsoir.
Bonsoir Géry Luchaka.
Vous êtes journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Vous êtes aussi coordonnateur national des communicologues du troisième millénaire. Freddy Thieu, bonsoir.
Bonsoir Béry Franklin Luchaka.
Et vous êtes journaliste à la Radio-Télévision par satellite RTBS 1, une télévision qui est émise ici à Kinshasa. Et au téléphone, Alain Alamé, bonsoir.
Et bonsoir,
Claude. Vous êtes journaliste indépendant, vous êtes basé à Goma. Et je dis aussi bonsoir à Dieudonné Nyangasa qui assure la mise en onde de cette édition. Au cœur des débats, messieurs, manifestation populaire à l'expiration du mandat du président Joseph Kabila. C'était lundi et mardi 20 décembre dernier. D'après le bilan fait par la police, il y a eu 34 morts dans l'ensemble du pays, plusieurs blessés et dégâts matériels importants. Et puis, hier jeudi 22 décembre, l'Assemblée nationale a investi, après présentation de son programme d'action, le gouvernement Sami Badibanga, publié lundi 19 décembre dernier. Bienvenue à tous dans cette émission. Bonsoir à vous aussi, Kéline Couté. Dites-nous, qu'est-ce qui fait la une de la presse de cette semaine?
Bonsoir. La reprise des négociations directes entre les signataires de l'accord politique de la cité de l'Union africaine et les non-signataires ont été à la une des journaux quinois paru jeudi 22 décembre à Kinshasa. Forum des As, titre centre interdiocésain, un compromis avant Noël. Après quelques jours de suspension des travaux, les négociations directes entre les signataires de l'accord politique de la cité de l'Union africaine et les non-signataires ont repris à Kinshasa. À l'ouverture des travaux, les évêques ont menacé et prévenu que la conférence épiscopale nationale du Congo n'allait pas céder aux manœuvres dilatoires des participants. Les évêques affirment qu'un compromis est encore possible pour peu que les politiques fassent preuve de bonne volonté. Face aux manœuvres dilatoires de la classe politique, la SENCO menace de clôturer les travaux avant Noël, écrit l'Avenir. Et concernant la situation qui a prévalu à Kinshasa et dans certaines provinces de la RDC le 19 et le 20 décembre dernier, la prospérité renseigne, le G7 interpelle la classe politique. Le G7 s'est dit préoccupé par la détérioration de la situation politique, économique et sociale du pays et lance un appel à toute la classe politique congolaise afin de mettre à profit le temps limité dont dispose la SENCO pour faire aboutir les négociations dont les résultats sont attendus par tout le peuple congolais. Dans un communiqué de presse, le G7 condamne aussi les tueries, les tortures et arrestations des manifestants pacifiques non armés qui voulaient, dit-il, juste exprimer leurs droits constitutionnels et universels, tout en rendant hommage à tous les compatriotes qui ont perdu leur vie le 19 et 20 décembre 2016. Pour défendre la démocratie et la constitution, le G7 exige une enquête indépendante et sérieuse afin que les commanditaires de ces actes ignobles soient débusqués et sévèrement censurés, écrit la prospérité. Gouvernement Badibanga, les journaux commentent le programme du gouvernement des transitions présenté hier jeudi par le premier ministre Sami Badibanga et l'investiture de son gouvernement par l'Assemblée nationale, signalant que ce gouvernement a été publié le 19 décembre dernier. Ce programme a comme priorité la consolidation de la cohésion nationale, l'organisation des élections et de répondre à la crise économique et sociale, précise l'Avenir, ajoutant qu'au cours de son oral devant les élus nationaux, le nouveau Premier ministre a reconnu que son programme n'est pas ambitieux. Ce sont plutôt les défis liés à ce programme qui restent importants, a-t-il estimé, soulignant que ces défis sont d'ordre politique et sécuritaire, électoral et territorial. Forum des As commente aussi cette actualité, note que la plus grande innovation du programme du gouvernement Badibanga et la gratuité des accouchements sur l'ensemble du territoire national et des soins de santé aux enfants de moins de 5 ans. Sami Badibanga promet des surprises, titre pour sa part la prospérité, qui évoque également cette actualité. Sans évoquer ces surprises, le quotidien juge responsable le programme présenté par Sami Badibanga, estimant qu'il est élaboré sur fond d'une réflexion mûrie sur le destin du pays.
Merci Kelly. Avant d'entrer dans les vifs de nos débats de ce soir, chers confrères, je vais vous poser juste une question en rapport avec l'année 2016 qui touche déjà à sa fin. Claude, qu'est-ce qui vous a marqué tout au long de cette année 2016?
Moi, ce qui m'a beaucoup plus marqué tout au long de cette année 2016 qui se termine, c'est le retour de Étienne Tshisekedi et surtout son meeting tout près du stade des martyrs. Ce jour-là,
au mois de juillet,
j'ai salué la démocratie, les forces de sécurité, les forces de l'ordre ont très très bien travaillé, il n'y a pas eu de casse, tout s'est passé dans l'ordre et la discipline, et nous saluons Par contre, des manifestations que l'opposition a projetées par la suite, sans l'aval de l'autorité urbaine, ces manifestations ont conduit à des casses, à des pillages.
Mais est-ce qu'on avait demandé l'autorisation pour que les gens aillent accueillir Tshisekedi ou bien son meeting, au meeting de Tshisekedi?
Non. Le problème, c'est que les gestionnaires de la ville sont là. Les grandes manifestations sont toujours autorisées conformément à la loi. Et si vous n'avez pas l'autorisation, vous ne pouvez pas vous manifester sur la voie publique parce que la voie publique appartient à tout le monde.
C'était un régime d'information ou de
d'autorisation? C'était un régime d'information, mais nous savons que la voie publique ou la place publique appartient à tous les Congolais. Parce que tous les Congolais ont les mêmes droits.
D'accord. Alors, Freddy, qu'est-ce qui vous a marqué pendant l'année 2016 qui s'achève déjà?
Ben, beaucoup d'événements. D'abord, la mort de Papa Wemba, le 24 avril de cette année. C'était la journée où Mobutu déclarait, si j'ai bonne mémoire, en 90, que comprenait mon émotion et
il le proclamait le multipartisme. Voilà.
Et malheureusement, c'est vers 3 du matin que Wemba rendait l'âme sur scène en Côte d'Ivoire. Mais il reste également les événements malheureux du 19 et 20 septembre 2016. Nous avons tous vu ça et eu mort d'homme parce qu'il n'y a pas eu convocation du corps électoral tel que le préconise l'article 13 de la Constitution pour qu'il y ait élection et puis qu'il y ait
passation du pouvoir civilisé.
Fin décembre. Et comme conséquence, naturellement, il y a eu ce qu'il y a eu au début de cette semaine. Bon, en fait, ce sont les événements malheureux qui ont marqué pour moi, selon moi, cette année finissante 2016.
Merci. Alain, qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement durant toute cette année 2016?
Merci, mes co-débatteurs semblent parler toujours de ce qui est un peu sombre, bien sûr sombre. Mon sujet touche la partie nord de la province du Nord Kivu, où il y a eu la recrudescence de massacres de civils par le rebelle de l'ADF Nalu. Et donc, je pourrais parler un peu de ces morts, 50 morts le 13 août 2016. Et vous comprenez que je félicite la communauté internationale, le gouvernement, ainsi que les associations et organisations locales, la société civile, qui a tout fait pour qu'ils puissent contribuer dans la lutte contre ces crimes ou réduire à tant soit peu l'ascendance de ZADF Nalu sur la population civile dans les zones de Eringeti Beni. On peut parler de Kisanga ou des Rwangoma dans le coin de la province du Nord Kivu. C'est vrai, jusqu'à présent, une rébellion qui est ougandaise, une menace externe, à la fois interne pour la sécurité de la République démocratique du Congo, on ne s'est pas terminé. Je vois la MONUSCO, la brigade de la MONUSCO qui a su prendre le camp garlic des ADF Nalu, et depuis nous sommes en train de voir qu'il y a des avancées dans la protection des civils, bien qu'il y ait des soulèvements populaires de gens de Butembo qui quittent à pied jusqu'à Beni pour voir comment est-ce qu'ils peuvent aussi appuyer les gouvernements à lutter contre ces crimes. Également le Mai Mai qui, hors du droit, on vous lit également, porte main forte au phare d'essai et à la MONUSCO.
D'accord. Alors, très rapidement, quelque chose de positif dans cette partie de l'est du pays?
Le positif dans la partie est du pays, c'est d'abord la solidarisation de toutes les communautés ethniques et aussi confessionnelles autour de ces problèmes. Également, ces points de vue de la communauté internationale prenant les conseils de sécurité, les secrétaires généraux des Nations Unies, les représentants spéciaux des Nations Unies en RDC qui ont vraiment condamné ces actes. Et la CIRGL, CPGL et donc toutes les communautés, les organisations internationales sous-régionales qui s'engagent à lutter contre cette insécurité grandissante dans la partie est du pays, précisément. Merci. À Beni, dans le Rwenzori.
Claude, quelque chose de positif pour cette année 2016?
Bon, quelque chose de positif, c'est-à-dire que...
Évidemment, vous avez parlé de l'arrivée d'Étienne Tshisekedi,
oui, quelque chose de positif. C'est déjà positif parce que nous saluons la démocratie, les Congolais peuvent s'exprimer librement, tenir des meetings là où ils sont, sauf on ne peut pas accepter des injures. Et nous saluons également les débuts des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Et ce sont les opérations qui vont nous conduire vers les élections. C'est quelque chose de positif.
Très bien. Alors, Freddy, quelque chose de positif pour, ce, pour cette année 2016?
Mais écoute, je vais à Kinshasa, je suis un Kinois, je vois comment... Je ne sais pas, à moins que je puisse créer, de faire de la flatterie. Nous avons les routes qui sont dégradées dans tous les quartiers. On ne sait même pas, en fait...
En français facile pour tout, pour vous, rien de positif.
Je suis désolé de le constater, mais c'est ce qui est là, c'est ce que nous vivons chaque jour. En tout cas, Moluche avec moi qui dit ça, je ne sais pas qu'est-ce qui marche sur le plan des institutions. À mon avis, en tout cas, je ne vois rien qui plaît au Congo aujourd'hui.
D'accord, merci beaucoup. Et c'est sur cette note que nous allons commencer nos débats de ce soir. Et je rappelle à nos auditeurs qui viennent de nous prendre en cours que Claude Moluche au KMB est journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Il est aussi coordonnateur national des communicologues du troisième millénaire. Freddy Tchiyoyo, journaliste à la Radio-Télévision par satellite RTVS 1, une télévision qui émet ici à Kinshasa. Et Alain Alamé, journaliste indépendant basé à Goma, sont les invités de Berry Franklin Luchaka dans le dernier numéro de la tribune de presse. Nous sommes vendredi 23 décembre 2016. Et voici donc le premier thème de ce soir. Manifestation populaire à l'expiration du mandat du président Joseph Kabila. C'était lundi et mardi 20 décembre. D'après le bilan fait par la police, il y a eu 34 morts dans l'ensemble du pays, plusieurs blessés et dégâts matériels. On écoute les colonels Pirot.
De manière générale, sur l'ensemble du territoire national, la situation sécuritaire est relativement calme, mais ponctuée par des tentatives de troubles à l'ordre public et de pillages tant à Kinshasa que dans d'autres villes du pays. Le 20 décembre, quelques groupuscules de délinquants constitués ça et là aux abords de grandes artères des communes de la partie est de la ville en quête de pillages ont été dispersés par la police au fur et à mesure de leur reconstitution. Bilan perte en vie humaine. Neuf au total, province du Congo central, bilan provisoire, ville de Matadi, 3 morts enregistrés lors du pillage de la boulangerie La Perle et de quelques dépôts et boutiques, 1 sous-commissariat de la police saccagé, ville de Boma, 2 morts lors du pillage et incendie des installations du tripé de Boma, Nord Kivu, 5 insurgés de Maïma tués, 14 capturés, parmi lesquels 2 blessés, 1 policier tué, 1 élément de la MONUSCO du contingent sud-africain tué, 1 militaire FARDC tué, 1 civil tué, au Katanga. Bilan perte en vie humaine, 8 morts, dont 4 par balle perdue, 1 fille par balle blanche, 3 molestés.
La veille, le ministre Lambert Mende avait fait état de 9 morts seulement à Kinshasa et aucune perte en vie humaine dans le reste du pays. Le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, quant à lui, a fait état de 113 arrestations. Première question à vous, messieurs, comment vous avez analysé ces manifestations, Claude?
Oui, voilà. D'abord, il faut noter que tout le monde savait que le 19 décembre à minuit, les mandats du chef de l'État se terminent, du moins le second mandat. Et je ne sais pas pourquoi il fallait envoyer des gens dans la rue.
Qui a envoyé les gens dans la rue?
L'opposition, parce que vous vous souvenez que...
À ma connaissance, il n'y a pas eu...
Deux jours avant le 19, si pas trois jours, il y a des opposants qui sont passés à la télé pour dire que je mets la tête à couper si Joseph Kabila ne part pas le 19. Vous trouverez mon cadavre sur la voie publique. Je peux citer même les noms si vous voulez. Un opposant, député national de Sirkoua, qui a avancé de telles affirmations.
Et vous appelez ça appel à la mobilisation?
C'est un appel à la violence.
D'accord.
Alors que nous sommes dans la dynamique de l'apaisement pendant que les négociations au niveau de la CENCO se poursuivent. Et vous appelez les gens à manifester parce que Joseph Kabila fait mandat. Alors que la constitution, qui est la loi fondamentale, précise, stipule très clairement les principes de la continuité de l'action de l'État.
Qui dit que le président
reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu, conformément à l'article 70, alinéa 2. Et même la Cour constitutionnelle, plus d'une fois, s'est prononcée sur cette question. Les juristes, on a fait appel aux juristes au niveau international. Il y a même un cabinet d'avocats au niveau de Paris qui a fait appel à tous les constitutionnalistes possibles. L'université Paris-Panthéon-Sorbonne, de Marseille, toutes les universités rationnelles, crédibles et performantes de France. Tous les constitutionnalistes de ces universités se sont prononcés sur cette question qui est non. Joseph Kabila doit rester au pouvoir jusqu'à l'installation du nouveau président.
Et donc Joseph Kabila devrait rester et il est resté.
C'est normal,
c'est
clair.
Et vous ne comprenez pas pourquoi il y a eu...
Ce n'est pas parce que c'est Joseph Kabila. Moi, je suis légaliste. Je suis toujours respectueux des textes qui nous régissent. Alors, les gens ne veulent pas respecter les textes qui nous régissent. Prenons le cas du Sénat. Le Sénat a fait un mandat depuis quand? Depuis plus de 5 à 6 ans. Mais pourquoi le Sénat aujourd'hui est en train de fonctionner?
Très bien.
Pourquoi le Sénat, est-ce que pensez-vous aujourd'hui, M. Berry Franklin, que les lois qui sont votées au Sénat n'engagent pas la République, ou les lois ou les édits qui sont pris au niveau des assemblées provinciales n'engagent pas la République démocratique du Congo? Non! Aujourd'hui, Joseph Kabila Kabange, même si nous sommes aujourd'hui les 23, les 24, les 25, les 26, les 27, jusqu'à l'installation du nouveau président élu, Joseph Kabila signera toujours des ordonnances et ça va engager le pays.
Je vous redonne la parole. Freddy, est-ce que vous êtes d'abord d'accord avec Claude?
En fait, je pense que vous l'avez rappelé, M. Claude Moulicho, le 17 décembre, c'était la fin de mandat du président de la République en exercice depuis pratiquement 15 ans au pouvoir. Alors, faut plus que vous évoquez l'article 70 de la Constitution, il faut aussi le conjuguer avec l'article 73 de la Constitution qui préconise la convention électorale 90 jours avant. Alors, pourquoi lire en partie la Constitution en évoquant l'alinéa 2 de l'article 70 de la Constitution et ne pas aussi dire qu'il faut aussi penser à la convocation électorale 90 jours avant? Et vous allez me dire que la Cour a tranché, mais là, c'est discutable, je ne suis pas juriste. Lorsque la Cour. Et la Cour n'a pas dit que le président restait indéfiniment au pouvoir, je sais qu'il y aura élection, puisque là, vous nous ramenez à ce que on appelle ça le roumélisme. Puisque demain, vous évoquez, non, voilà, demain, fin 2010, il n'y a pas d'argent, on continue sur l'arrêt de la Cour. Là, non, c'est pas comme ça. Puisque il y a aussi les temps qu'il faut se définir. Puisque ici, il y a l'électorat convoqué 90 jours avant. Le président est en fonction jusqu'à l'installation. Quand on dit installation, cela voudrait dire, ou cela implique le résultat des élections, et puis on attend l'installation du nouveau président élu. C'est l'article défini. On parle français, M. Moulicho. On dit bien jusqu'à l'installation du nouveau président élu, mon cher ami. Donc cela sous-entend qu'il y a eu un président qui a été élu et qui attend son installation. Et on vous dit, et la Cour n'a pas dit que le président reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu. Non, ça c'est ça, c'est n'est pas comprendre le français et interprété par la Cour.
Vous entrez maintenant dans la sémantique.
Alors, vous évoquez le cas du Sénat, cher ami. Le chronogramme pour l'élection présidentielle est dans la Constitution. C'est pourquoi on vous dit, il faut 90 jours avant. Mais pour le sens, on vous dit, on attend jusqu'à l'installation d'un Sénat correspondant. Ce n'est pas le cas du président, vous comprenez? Mais c'est le cas du gouverneur, des deux provinciaux. Même pour Minaku, il pourra rester, parce qu'il n'y aura pas législative, il reste là. Mais pour le cas du président, il y a un calendrier qui est dans la Constitution.
Très bien, je vous redonne la parole. Alors, Alain, comment vous avez analysé toutes ces manifestations?
Avant d'analyser, je vais d'abord rendre hommage aux compatriotes qui ont péri par la suite des tumultes liés à ce processus électoral. Les compatriotes également, le contingent de la Monisco qui a également succombé. Et par la suite, je vais dire que nous ne devons pas penser autant de gauche-droite, opposition ou majorité, mais plutôt nous devons voir le principe qui oriente la gestion des États modernes à travers le monde. Parce que le principe qui est applicable actuellement peut être applicable dans d'autres États. Et cette activité ou cette situation qui nous est arrivée également, vous avez parlé en 1990, le 24 avril, avec les débuts du pluralisme politique, là où nous voyons la naissance de la démocratie dans la période dictatoriale, dite dictatoriale de Mobutu. La population, si elle a manifesté les 19 et le 20, c'est pour exprimer le ras-le-bol à un gouvernement. Le peuple a trouvé qu'après 10 ans, depuis 2006, le gouvernement n'a pas été à mesure de répondre à leur requête ou alléger
d'entraper
la misère du peuple.
Comme l'a dit Claude tout à l'heure, est-ce que chez vous il y avait des appels à la mobilisation de la part des opposants ou bien c'est la population d'elle-même qui s'est manifestée?
L'appel à la mobilisation est peut-être illicite ou encore moindre sur le plan international, parce que nous voyons à Goma, c'est à Kinshasa, les leaders politiques sont à Kinshasa. À Kinshasa, nous avons vu sur les réseaux sociaux la publication de l'appel indirect à la manifestation avec le Twitter de Félix Tshisekedi disant que nous avons échoué et nous laissons la balle dans les camps de la population. La population, c'est une masse, elle n'a pas d'âme, elle n'a pas d'élite, et donc c'est dire d'une manière indirecte, défendez-vous, nous n'avons plus les moyens de défense.
Et c'est ce qui justifie
violence.
Et c'est ce qui justifie, selon vous, les arrestations et les morts par balle, par exemple?
Bon, ce qui justifie les arrestations, c'est que le gouvernement ou le régime en place s'est rendu célèbre dans l'arbitraire, parce qu'il fallait respecter la Constitution. Je peux revenir, si vous me le permettez, avec le principe des démocraties que nous avons perdu. Les principes des démocraties et l'éthique politique. L'éthique politique qui peut prendre la clause de conscience qui peut avoir un homme politique. Mais les hommes politiques ont oublié Dieu. Ils ont oublié même le vertu démocratique, notamment le principe de la souveraineté du peuple, le principe du respect des droits fondamentaux. On voit l'alternance du pouvoir, les limites de la Constitution, la tolérance, et tous ces principes ont été oubliés. Et par les régimes en place, la majorité, et par l'opposition, et bien aussi par la société civile, dont même les journalistes font part.
D'accord. Freddy, il y a Claude qui disait tout à l'heure que les politiciens ont envoyé, ils ont demandé à la population de se soulever, quoi. Est-ce que vous avez senti ça ici à Kinshasa?
Non, en fait, il faut relativiser les choses, d'autant plus que notre ami Alain m'a évoqué les tweets de M. Félix Tshisekedi. Je reconnais avoir lu cela, mais il a dit que nous, au niveau de la CENCO, on n'a pas pu trouver un compromis, puisqu'il était question qu'on trouva un compromis 3 jours après les négociations. Mais, excusez-moi, mais cela n'a pas été le cas, raison pour laquelle, vous savez, on a mobilisé les gens pendant une année, que le 10 décembre, c'est la fin du mois de M. Kabila. Vous comprenez? Alors, il fallait bien trouver comment encadrer cette opinion-là, puisque à ce moment-là, ne pas dire un mot, vous passez pour un traître. Moi, je le comprends comme ça. Donc, il fallait donc démontrer que ce n'est pas nous qui avons voulu qu'il n'y ait pas un accord. Ce n'est pas nous qui avons fait que qu'on trouve pas ne fût-ce qu'une issue de sortie à la crise. Donc, c'est plutôt les amis d'en face qui n'ont pas fait des concessions. Moi, je crois des sens là, on peut relativiser, on peut interpréter autrement et on n'aurait pas aussi tort. Mais je pense que appel ouvert, que l'on voilà, aller dans la rue, ce n'était pas le cas, puisque même à minuit, lorsqu'il y a eu ça de ce gouvernement, qui serait à Palais. Dit, je vous invite à ne pas reconnaître Kabila et à une résistance pacifique, donc pas violente. Vous comprenez donc que chacun a mis un peu dans son vin, d'autant plus qu'il y avait des négociations qui ont été suspendues, qui reprenaient les jours d'après. Donc je ne veux pas aujourd'hui affirmer ou infirmer que quelqu'un ou un des négociateurs avait appelé gens à la population. Sauf que la crise actuelle dépasse l'entendement des individus aux négociations, dépasse l'entendement de Tshisekedi, de Kabila, de Kamerhe et de la CENCO. Parce que les gens ont été mobilisés avec l'arrivée des réseaux sociaux aujourd'hui. Chacun était vraiment à sa manière. En tout cas, les gens avaient dans la tête, 10 décembre, ça passe ou ça casse. Raison pour laquelle on a déployé, parce que déjà lorsque vous déployez un dispositif militaire, policier, dans tous les grosses de la ville, en tout cas, ça craint. Les gens ne peuvent que se rappeler, même si ils ont déjà oublié qu'il y avait des gens qui arrivaient devant eux.
Très bien. Alors, Claude, tout cet important dispositif militaire qu'il y a eu par rapport au 19 et 20, vous les justifiez comment?
Non, écoutez, les forces de l'ordre doivent sécuriser tout le monde, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité.
Mais on n'a pas sécurisé, par exemple, un 4 juillet.
Non, on sécurise tout le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis le début du 1er janvier au 31 décembre, les forces ont la mission. Ce sont les missions régaliennes, papa.
On ne pas les tueries. Hein.
On sécurise tout le monde. Mais je reviens un peu sur les concessions, parce qu'il a parlé des concessions au niveau de la CENCO.
Nous y reviendrons.
Bon, on y reviendra, bien sûr, mais nous devons en parler parce que c'est d'actualité. Mais quand on veut sécuriser les gens, c'est pour dire que on ne voit pas les couleurs, que non, celui-là il est de teint clair, non, ce sont les Congolais. Et quand on déploie des dispositifs sécuritaires, c'est pour sécuriser tout le monde. Et je pense qu'il y a même des combattants de l'UDPS qui sont en vie aujourd'hui et qui ont été sécurisés. Il y a déjà des militants aussi du PPRD ou des partis de la majorité, AFDC et ainsi de suite, qui sont en vie aujourd'hui, qui ont été sécurisés, qui sont sécurisés jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand on déploie des dispositifs militaires, c'est pour sécuriser tout le monde. Ça ne peut pas inquiéter.
Donc, même s'il y a eu après des arrestations et des assassinats, il n'y a pas de problème.
Ça, c'est les gens qui se sont livrés à des actes c'est le vandalisme.
Merci. Alors parlons un peu de la légitimité du président Kabila. Vous l'avez souligné dans votre première intervention que le président, il est légitime, etc. D'où tire-t-il cette légitimité aujourd'hui?
Mon cher Berry Franklin Lutchak, c'est très important que les Congolais ou les étrangers qui nous suivent, tous les auditeurs de la radio Capi aujourd'hui qui nous suivent de partout à travers le monde, doivent savoir que Joseph Kabila, à la date d'aujourd'hui, même demain, même après-demain, il est légal et légitime.
Expliquez-vous.
Ça, c'est démontrable et
je peux le prouver très rapidement.
Je m'explique. Mm-hmm. D'abord, sur le plan constitutionnel, la Constitution lui donne le pouvoir en tant que chef de l'État, garant du fonctionnement des institutions, garant de la nation, d'agir comme chef de l'État, comme président de la République démocratique du Congo.
Même après le 19 décembre.
Même après le 19 décembre, même après le 20 décembre, parce que la Constitution lui donne le pouvoir de continuer dans la gestion du pays comme président élu qui attend les élections et l'élection du nouveau président élu.
Mmh. Deuxième argument.
Deuxième argument, c'est en rapport avec les prérogatives d'un chef d'État. Toujours constitutionnel. Je reviens toujours à la Constitution. Parce qu'ici, nous devons...
Donc, c'est dans la Constitution qui tire sa légitimité.
C'est dans la Constitution actuelle en vigueur, à moins qu'on me dise le contraire,
très bien,
qui tire sa légitimité et sa légalité.
Voilà. Freddy, d'où tire le chef de l'État sa légitimité?
Alors, je ne suis pas dans ce schéma-là, en tout cas. Je suis désolé. Le président...
Mais il faut répondre à la question.
Oui, je réponds et je vais argumenter. Le président Kabila, au jour d'aujourd'hui, n'a plus légitimité parce que son mandat a pris fin le 10 décembre 2016. On peut encore dire l'égalité, et encore que c'est discutable, comme je l'ai démontré ici, on ne peut pas lire la Constitution à moitié ou en partie, puisque la Constitution est écrite sur tout un corps. Lorsque vous lisez l'alinéa 2, l'article de la Constitution, il faut commencer par le premier et aussi à l'article 13 aussi, parce qu'il n'y a pas eu élection. C'est pourquoi le président lui-même appelait au dialogue, puis même sachant que, au terme de son mandat, en tout cas, il y aurait aura un problème de légitimité. Si le Seigneur n'a pas de dialogue, si réellement il était légitime, il allait lui-même mettre en place son gouvernement et puis attendre les élections. Mais si c'est dialogue, c'est pour légitimer un peu la démarche après le 10 décembre 2016.
Entre les c'est faux,
en tout cas, nous devons avoir un
engagement,
cher ami, puisque la loi est claire. Le mandat est de 5 ans une fois, rénovation qui fait 10 ans. Donc, au 10 décembre, parce que je l'ai bien dit de montrer ici que le calendrier pour l'élection présidentielle est dans la Constitution. Vous comprenez un peu. Alors, si le président lui-même, en tant que juriste, il a fait le droit, m'apprend-on, je crois que c'est parce qu'il a compris qu'au soir du 20 décembre, posait un problème. C'est pourquoi il a appelé depuis une année au dialogue. Et ça n'a pas été facile d'avoir les forces significatives avec lui.
D'accord.
C'est pourquoi il y a eu deux dialogues.
D'accord.
L'Union africaine et la CEDEAO qui est poursuivre la démarche.
Merci. Très bien. Alors, très rapidement, Alain, selon vous, est-ce que le président Kabila est toujours légitime ou il ne l'est plus?
J'aurais pas souhaité que je le fasse rapidement. Je peux répondre d'abord à la question que vous avez posée à mon co-débatteur Claude sur les dispositifs militaires.
Allez-y très rapidement.
Oui, je comprends que les régimes en place ont enfreint aux droits fondamentaux, aux libertés fondamentales, qui sont les libertés d'expression, de réunion, de manifestation, de justice régulière et équitable. Et tenant compte de la Constitution, la manifestation a un régime informatif. Donc il ne devrait pas arrêter et prendre un dispositif militaire d'OTAN. Ce n'est pas un état de siège qui était décrété. Ce n'était pas un état d'urgence. Légalement, la politique interne du ministère de l'Intérieur ou de la route du Haut Conseil de la Défense n'était pas proportionnelle parce que ils n'ont pas décrété un état d'urgence ou un état de siège. Quand il y a la violence appelle la violence. Parce qu'il y a un dispositif militaire fort et cela appelle aussi la violence de la part de la population qui était calme à ce moment. Par rapport à la légitimité, je veux dire, nous tenons sur les dispositifs, donc les dispositions de la Constitution. Nous comprenons que les présidents de la République que nous appelons maintenant ici n'est ni légitime de fait et de droit. C'est un pouvoir de fait qu'il occupe à partir du 20 décembre. C'est normal. On ne va pas demander à un avocat ou un cabinet d'avocats venant des États-Unis. Il n'est pas légitime, mais il peut conduire dans des moments exceptionnels comme ceci, l'État, mais en tant que président de fait. Il n'est pas président de droit. il n'est même pas légitime sur le plan popularité, parce qu'on n'est pas passé aux élections et qu'ils sont encore réélus, on n'est pas passé au référendum pour que le peuple comprenne ses instances.
Merci. Voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, quelques minutes avant minuit, le chef de l'État a nommé les membres du gouvernement Sami Badibanga. Et hier jeudi, l'Assemblée nationale a investi, après présentation de son programme d'action, ce gouvernement. Et ce gouvernement qui est composé de 67 membres, dont 8 femmes. Il comprend 3 vice-premiers ministres, 7 ministres d'État et 34 ministres, ainsi que 23 vice-ministres. Dans son adresse, le premier ministre lui-même, Sami Badibanga, s'est apesanti sur les différents objectifs assignés à son gouvernement. Il s'agit notamment de la cohésion nationale, de l'organisation des élections et de la lutte contre la crise socio-économique. Plus de précisions avec vous, Jean-Désiré Kanyama.
Le Premier ministre Sami Badibanga s'est engagé devant l'Assemblée nationale à conduire le pays aux élections générales.
Nous nous engageons à regarder l'avenir proche, c'est-à-dire la tenue des élections dans le respect des échéances. Ce travail se fera avec la CENI, qui a la responsabilité du processus électoral, notamment celle d'organiser les élections.
Le chef du gouvernement a ainsi sollicité l'implication de tous pour réussir cette mission. Le Premier ministre et son équipe comptent également défendre les droits humains.
La question du respect des droits de l'homme sera au centre de notre action. Qu'il s'agisse du respect de la liberté d'expression ou d'opinion, la liberté de la presse ou encore du respect des procédures en cas de poursuite, y compris les procédures relatives aux libertés provisoires, aux libérations conditionnelles, ainsi que les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Sami Badibanga a également promis de rendre gratuit l'enseignement primaire et les soins de santé en faveur des enfants de moins de 5 ans. Le Premier ministre a par ailleurs promis de combattre la pauvreté en améliorant les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'énergie et du commerce. Son programme a à la fin fait l'objet d'un débat à la Chambre basse du Parlement.
Merci Jean-Désiré Kanyama. Claude, quelle lecture vous faites du programme du Premier ministre?
Voilà, moi, j'ai suivi religieusement le discours programme du Premier ministre du gouvernement Sami Badibanga, mais j'ai comme l'impression qu'il a projeté les choses dans 5, 10 ans ou 15 ans, parce que aujourd'hui, les priorités, ce sont les élections. Même s'il y a eu négociation ou dialogue à la Cité de l'Union africaine, il y a aussi négociation directe au niveau de la CENCO, qui se termine d'ailleurs. Tout cela rime avec la tenue des élections, parce qu'on a connu du retard, on a accusé du retard dans l'organisation des élections. Nous devons avoir un calendrier.
Selon vous, votre programme est réalisable ou pas?
Je pense qu'il devrait centrer son programme sur les élections. Parce que je m'imagine, nous avons vraiment des défis énormes sur l'organisation des élections et le temps nous presse. Il y a des gens qui demandent encore d'écourter ce délai d'ici novembre ou septembre 2017 qu'on doit organiser les élections. Il y a des gens qui disent d'ici 2018. Alors, Sami Badibanga devrait vraiment centrer son action sur les élections pour que nous puissions terminer cette fois avec ces débats et avoir une nouvelle institution.
Freddy, ça fait 67 personnes, 67 membres dans ce gouvernement, et une première depuis quand même 2006. Comment vous analysez cela?
En fait, je note que Matata 1 avait 37 membres au gouvernement, Matata 2, il y avait 39 membres, 44 si j'ai bonne mémoire, mais là, je note qu'il y a 67 membres, et Matata 1 avait 8 milliards de dollars américains, Matata 2, même budget, et je vois Badibanga 1 avec 67 membres pour 4 milliards.
Près de 5 milliards de dollars.
Près de 5 milliards. Alors je me dis.
Badibanga n'a pas encore présenté son budget, il va le faire.
S'il vous plaît, je note que la matrice qu'a laissé son prédécesseur, Matata Ponyo, c'est plus ou moins 5 milliards de dollars. Alors je ne vois pas Badibanga faire des prouesses pour nous donner un budget de 10 milliards.
Mais il a promis des surprises quand même.
Ouais, j'espère, je pense qu'il sera en mesure de nous offrir cette surprise-là. Mais quand même, c'est un bon programme. J'ai seulement les intention de l'homme qui veut voir le vécu côté des populations s'améliorer du jour au jour. Mais sauf que le contexte actuel ne l'offre pas cette possibilité de nous offrir cela, de la mesure où déjà le président Kabila...
Claude a parlé des élections et vous pensez que la priorité pour vous, ça serait quoi?
Non, en fait, il doit s'inscrire dans le cheminement lui proposé par le président Kabila au Congrès récemment, l'a dit. Il enjoint au gouvernement d'abord les élections, mais également améliorer le social. Mais je pense que déjà avec 4 milliards qu'on sera
qu'on aura difficile à mobiliser. Déjà, les élections, ça demande plus ou moins 1,8 milliard, il reste à peine 2 milliards quelque chose, mon cher ami. 70 millions de Congolais, vous pensez qu'il sera en mesure d'offrir la maternité gratuite aux femmes et l'accès gratuit aux soins de santé pour ça fait de moins de 5 ans.
Vous appelez ça la démagogie?
Pas la démagogie, mais c'est un peu chimérique quand même. Hein. C'est
d'accord.
Un peu chimérique. En tout cas, en fait, j'ai salué les bonnes de l'homme. C'est un monsieur intelligent que j'ai fréquenté depuis plus ou moins 5 ans à l'Assemblée. Mais je crois qu'il a de bonnes idées, mais qu'il ne sera pas exécuté facilement avec le contexte actuel. Et d'ailleurs, avec les régies financières qui sont menées par les promatatas, tout ça. En tout cas, je ne vois pas Badi Banga faire opérer une surprise pour offrir le bonheur congolais.
D'accord. Alors, Alain, est-ce que vous êtes aussi dubitatif que Freddy lorsqu'il... Il ne voit pas comment Badi Banga peut réussir là où pratiquement Matata a échoué.
Non, je ne suis pas d'accord avec mon co-débatteur Claude, à ce sens que le problème du gouvernement Badi Banga n'est pas le problème de Pétor, il n'est pas aussi un problème, il n'a pas un problème de budget ou de moyens, parce qu'il peut aussi faire son budget et avoir un budget
qui ça, peut qu'il
mobiliser des ressources. Le problème qu'il y a, c'est aussi la légitimité ou la représentativité de toutes les forces politiques et civiles dans ce gouvernement qui doit être un gouvernement d'une large union et un gouvernement qui fédère toutes les forces. C'est ça le problème. Nous attendons les conclusions qui vont passer, et donc nous pensons que ces gouvernements devraient être encore refaits ou refondre. Mais pour autant, c'est bien d'avoir un gouvernement parce que la vie ne doit pas s'arrêter. Le peuple a besoin de vivre, il a besoin d'être dirigé, l'économie, les sociales, la sécurité et tous les restes doivent être organisés, et c'est un gouvernement qui doit le faire. Cependant, ces gouvernements devraient avoir toute la liberté et ne pas avoir une main liée, donc ne pas faire quelque chose qui vient directement de l'institution président de la République, et ça permettrait à ce que ça réponde à ça.
Merci.
Après avoir été refondu.
Alors, pendant que le chef de l'État nommait ce gouvernement, les travaux de la CENCO n'étaient pas encore achevés, et voici qu'aujourd'hui un accord est quasiment en train d'être trouvé entre les signataires de l'accord du 18 octobre et le rassemblement. Les points forts de cet accord sont tels que Joseph Kabila reste président mais ne pourra pas se représenter pour un troisième mandat. Les élections doivent se tenir au dernier trimestre de 2017. Le gouvernement de transition doit inclure le rassemblement, la libération effective des 7 prisonniers politiques et d'opinion emblématique, l'abandon des poursuites et le retour de Moïse Katumbi au pays, et la mise en place d'un comité de surveillance et de suivi de l'accord. D'où la question, la nomination de ce gouvernement était-elle opportune? Claude.
Bon, écoutez, Ferry Lutchaka, nous avons été au dialogue national inclusif à la Cité africaine, nous sommes aujourd'hui en négociation directe, c'est-à-dire que les textes ou les dispositions qui ont été arrêtées au niveau du dialogue national inclusif doivent être appliquées. On a nommé un premier ministre.
Donc pour vous, les négociations directes de la CENCO n'ont pas besoin de bouger le gouvernement actuel.
Les négociations de la CENCO doivent aboutir. Et quand elles vont aboutir, il y aura un autre gouvernement. Mais cela ne voudrait pas dire que non, le pays doit rester sans gouvernement, non. On doit appliquer ce qui a été décidé à l'Union africaine et mettre en place un gouvernement. Même si c'est pour 10 jours, 20 jours, un mois ou deux mois, quand même, il doit y avoir un gouvernement. C'est ça l'application des textes. Nous devons appliquer les textes qui nous régissent.
Même si ce gouvernement va faire 2 jours, 3 jours, il n'y a pas de problème.
Oui, il n'y a pas de problème. Et quand il y aura un autre gouvernement, et même les évêques l'ont dit au niveau de la CENCO, que non, ça n'a pas empêché qu'on puisse publier le gouvernement Badi Banga. Et c'est aussi un gouvernement. On a vu dans ces pays le gouvernement de 22 jours, de 30 jours.
D'accord.
Ce n'est pas quelque chose de grave. Mais le principe, c'est que l'État doit fonctionner.
Très bien. On a compris votre analyse. Freddy, comment vous analysez? Est-ce que c'était opportun, finalement, d'avoir ce gouvernement Sami Badi Banga?
En fait, je trouve que c'était normal parce que, vous savez, l'intersection entre 19 et 20 décembre, en tout cas, il fallait trouver que le fisc, semblant, c'est un peu trop préjuratif, un gouvernement qui travaille. puisque le président, le mandat du président prenait fin le soir du 19 décembre, et sans gouvernement depuis que Bata avait démissionné plus ou moins deux mois pratiquement, une année et quelques semaines, et sans gouvernement,
un mois et quelques semaines,
on entrait comme ça dans un autre mandat sans qu'il y ait ne fût-ce qu'un gouvernement pour ne fût-ce que
jouer le rôle. Ça serait un vide juridique.
Un vide juridique. En tout cas, il fallait créer un événement dans un événement, et c'est pourquoi quelqu'un m'a fait rigoler que Men aurait dit que les gens aussi parce que ils ont accueilli l'arrivée de Madibanga. Donc de ce côté-là, en tout cas, le président Kabila n'a pas eu tort de nommer un premier ministre, un gouvernement pour assurer un peu cette transition, même de quelques jours. Mais cependant, de l'autre côté, il y a des négociations directes entre les camps des signataires de l'accord du 10 octobre 2016 et les non-signataires. Donc je pense que là, il y aura en tout cas un effet suspensif sur la marche de l'effectif qui a été investi.
Merci. Je rappelle qu'il nous reste moins de 5 minutes avant la fin de notre émission. Alain, vous allez en même temps conclure aussi votre propos. Est-ce que cette nomination était opportune? Est-ce que vous embrassez carrément les avis de Claude et Freddy ici, et pensez-vous en même temps que cet accord, ce nouvel accord pourrait garantir la paix à tous les Congolais? Ce sera aussi votre conclusion.
Merci beaucoup. Je crois que la nomination n'était pas opportune, à ce sens que le gouvernement a utilisé, ou le régime en place a utilisé, une politique de pression sur les autres participants à la négociation de la CENCO. Mais c'était une façon ou une autre de négliger à la fois la société civile et les autres participants, ainsi même la communauté internationale. C'était à l'avant-vite, et c'est pour cela que ça doit se refondre.
D'accord.
En conclusion, je dirais que l'absence d'un compromis entre le gouvernement et toutes les autres postes, toutes les autres parties, serait un coup fatal à la République. Donc, ça permettrait la République démocratique du Congo d'être comme un corps sans défense. Et tout celui qui pourrait s'élever, un seigneur de guerre, pouvait attaquer, parce que à ce moment-là, aucune autorité ne serait légitime de droit.
Merci beaucoup, cette fois c'est votre conclusion. Claude, est-ce que l'accord de la CENCO peut apporter la paix et garantir cette paix justement à tous les Congolais? Cette fois c'est votre conclusion.
C'est certainement, surtout le projet qui a été proposé par les événements de la CENCO. Vous savez que ces travaux sont suivis de près par tous les Congolais. Et moi, ce que je veux préciser ici, Berry Franklin, c'est que vous constaterez avec moi que ce qui a été fait au niveau de l'Union africaine et ce qui s'est fait au niveau de la CENCO, c'est presque la même chose.
Il n'y a pas de différence.
Les mêmes thématiques.
Il y a une grande différence.
Ce sont les personnes qui diffèrent, mais les thématiques, j'ai parlé des thématiques,
okay,
qui sont les mêmes. C'est-à-dire que on parle des élections, on parle des crispations, on parle des libérations des prisonniers politiques, on parle de
mais le rassemblement a réussi à obtenir sa
satisfaction. Ceux qui sont au gouvernement Badibango aujourd'hui vont quitter, et ceux qui sont au rassemblement, qui sont restés au rassemblement, vont entrer. C'est ça la différence. Mais les thématiques sont les mêmes. Nous avons connu des retards dans l'organisation des élections, on a accusé du retard, et voilà, nous avons un problème d'élection, et c'est ce qui a été résolu par la CENCO, comme au niveau de l'Union africaine. Ce sont les dates qui vont changer, mais les thématiques restent les mêmes, c'est-à-dire que c'est un faux débat.
Merci beaucoup. Alors, Freddy, on va finir avec vous. Oui. Est-ce que cet accord, ce projet d'accord va mettre fin à la... va garantir finalement la paix à tous les Congolais?
Je crois que parce que c'était l'accord à toi qui effuserait réellement que au moins dans cet accord, on s'est bien stipulé que le président actuel ne peut pas prendre notre mandat, il ne faut pas envisager un référendum, et que on va amender ce gouvernement, on va couper la formature à l'opposition, c'est-à-dire aux non-signataires, mais également on va couper la poire en l'eau au niveau de la gestion au sein de la territoriale. Donc en tout cas, ça c'est vrai de l'inclusivité, et puis on peut comprendre que au moins il y a beaucoup de chances pour obtenir l'alternance cette année ou début d'année 2018.
Merci beaucoup. Ce sera aussi fini pour la tribune de presse de ce soir et pour cette année. Dieudonné Nyangas a été à la prise de son. Kéline Kouté a coordonné cette émission, supervisée par Martin Sebou-Jangwe. Berry Franklin Lucha Kavouli, merci de nous avoir suivis. Remarques et suggestions, n'hésitez pas, écrivez-nous un mail à dec@radiocapi.net, et surtout retrouvez cette émission sur www.radiocapi.net. Merci de rester fidèle au programme de la fréquence de la paix, et surtout, nos voeux les meilleurs pour 2017. Bye bye.